Mardi 1er novembre 2011, bienvenue à l'aérospatiale animé par J'ai gagné et le virus du rhume cette semaine. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon cher ami qui m'a fait produire, ma foi, toutes sortes de sons étranges et une voix particulière aussi. Je suis également accompagnée de, non pas Jacques Gignac cette semaine à la mise en onde, mais Raymond Poirier, bonjour.
Bonjour.
Tu t'es porté volontaire pour remplacer Jacques.
Exactement, en fait, je t'accompagnerai au fil de l'heure. Et bien entendu, il y aura aussi notre petite revue de presse, comme à l'habitude, Julie. Et notamment, on reviendra sur les prix d'excellence des arts et de la culture. Les nominations ont été rendues publiques tout récemment.
J'ai bien hâte de les entendre également dans l'émission en rencontre Peyot et Lissery pour discuter de son exposition Le Monument qui est présenté à la Galerie des Arts Visuels. Dominique Savoie vient nous parler de l'exposition de Marcel Jean Maison qui est présentée à la Galerie Le 36. On rencontre également Charles F. Wallet pour discuter d'Avenue Citoyenne organisée par Exmuro. Donc, s'inscrit dans la suite d'Artistique Avenue, mais où on a jumelé des artistes avec des citoyens pour créer des œuvres sur des boîtes électriques. Cette semaine, Simon Roy n'était pas disponible pour nous présenter sa sélection audio. Par contre, il a fait le travail pour nous. Il nous a choisi l'album Blue Lands de Dopo. Et Raymond, tu as fait des petites recherches en orchestre.
Ben oui, en fait, je me demandais un peu qu'est-ce qu'on va écouter à cette édition de l'aérospatiale. Qui sont Dopo et quel est cet album que Simon Roy nous a proposé, Blue Lands? Eh bien, en fait, c'est un album un peu doux, amer, en fait, une belle nostalgie, une tristesse, de la joie, de l'amour, de la haine. Donc, vraiment, plein d'émotions un peu contradictoires qu'on retrouve à l'intérieur de ce que cette formation-là nous propose. Et il y a plusieurs critiques sur le web qui disaient, mais justement, ce qu'on apprécie, c'est cet aspect-là, cette capacité à créer des émotions paradoxales. Et en même temps, également à aller chercher un son qui est profondément le leur, même s'il y a également des influences transversales autour de cette formation. Parce que je donne un exemple, il y a une des pièces de The Long Red Fires of the Dying Day qui était comparée à Animal Collective, par exemple. L'album Blue Lands, c'est leur dernier album. Beaucoup de tristesse, d'ailleurs, dans les critiques qui étaient énoncées sur le web. Ils disaient, regardez, à tout le moins, ça laisse quelque chose. Ils ont laissé une trace, un passage avec cet album qu'ils ont proposé, dans lequel on retrouve de très, très belles pièces, notamment la pièce éponyme Blue Lands. Et également, dans certaines des pièces, ils intègrent l'enregistrement terrain. En fait, ça va être le cas dans l'une des pièces qu'on va entendre. De Sea Lion of the Sea est un bon exemple d'ailleurs à ce titre-là. Et sinon, ben, c'est un univers, je pense, qui devrait bien cadrer avec la température automnale qu'on voit aujourd'hui, de ce que j'en ai entendu au préalable et de ce que j'en ai lu également.
Ben, on s'en met tout de suite en oreille. On écoute la pièce Blue Land sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de la pièce Blue Lands tirée de l'album du même nom du groupe Dopo, une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, si vous voulez avoir les liens pour écouter les pièces, savoir qu'est-ce qui a passé à l'émission, réécouter l'émission en balado-diffusion, vous pouvez le faire par le biais de notre site internet l'aérospatiale.wordpress.com. Également, Raymond Poirier qui nous fait sa revue de presse, mais habituellement les liens pour la revue de presse qu'on écoute sans plus tarder.
Et oui, en fait, Julie, plusieurs nouvelles cette semaine, plusieurs nouvelles dignes de mention, et notamment comment c'est ça à Québec, ont été rendues publiques tout récemment les nominations pour les prix d'excellence des arts et de la culture, plusieurs nominations en lien avec les arts visuels, bien entendu plusieurs prix liés au domaine des arts visuels offerts par la Manif d'art. Ah ben, je te mentionne rapidement donc les différentes nominations. Premièrement, pour le prix événement qui souligne une production qui s'est démarquée dans l'ensemble de la programmation artistique. Alors les nominés qui ont été retenus, c'est Cooksasville pour leurs expositions La vie en rose et Le penseur en chocolat. Également Jacques Sanson pour Laboratoire qui avait été présenté à Zara. Et Caroline Gagné pour Cargo qu'on avait vu dans le cadre du mois multi 13. Alors ça, c'est les expositions. Parallèlement, pour ce qui est de la relève, les trois nominations, donc il y a Thierry Arcand-Bossé pour Horizon Captif qui a été présenté à la Galerie Lacerte, Guillaume Adjutor-Provo pour Hydre qui avait été présenté à l'œil de poisson, et enfin Cynthia Dinan-Mitchell pour Saloon Story Art 3 qui était également présenté à l'œil de poisson, ça c'est il y a de ça quelques temps. Alors ça, c'est des nominations exclusives aux arts visuels. Cela dit, Julie, il y a également des projets arts visuels qui sont retrouvés nominés dans d'autres catégories, notamment le prix du développement culturel qui honore une personne dont l'initiative récente a eu un impact significatif sur le développement culturel. Alors il y a Vincent Roy, directeur artistique d'Ex-Muro, pour l'ensemble des projets qui ont été réalisés par l'organisme qui s'est retrouvé nominé dans cette catégorie-là aux côtés de la promenade des écrivains et de l'École de cirque de Québec, donc quand même.
Ben oui, félicitations.
Et enfin, prix du rayonnement international, Dan Brault, qui est en nomination pour sa participation à la 10e Biennale d'art contemporain de Sharjah aux Émirats arabes unis. Alors, Dan Brault qui est en nomination dans cette catégorie-là aux côtés du Théâtre du Trident pour les Trois Sœurs à Moscou et Grégoire Legendre du Festival d'Opéra de Québec. Donc,
félicitations à tous les nominés.
Ben voilà, et on saura le 28 novembre prochain là, qui seront les gagnants. Alors, ça s'en vient. Très bientôt, on vous le dira.
On prend son mal en patience.
Exactement. Sinon, rapidement, à Montréal, le mois de la photo 2012 qui vient tout juste de se terminer et déjà les prémices de 2013 sont en train de se mettre en place. L'idée de départ, le thème a été annoncé. Ce sera cette idée que l'appareil photo travaille comme un ordinateur, voire comme un robot. Alors, l'image robotisée qui jette un regard sur la relation entre la caméra et le corps humain. Ce sera le thème du mois de la photo 2013. On parle musée un peu, un petit clin d'œil rapide au Québec. Dans les 6 premiers mois de l'année, il y a eu près de 5 millions de personnes qui ont été visiter les musées, donc un peu partout dans la province, qui est quand même très intéressant
au
comme
Québec,
chiffre.
Hein? Au Québec, 5 là. Millions?
5 millions.
Wow!
Donc, quand même, là, avec les mois les plus forts, bien entendu, qui sont mai-juin, il manque encore juillet-août, donc probablement que pour l'année, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, on parle ici là, de janvier à juin, 5 millions de visiteurs, donc c'est très bien. Parallèlement, on le sait, on en a discuté dans les dernières semaines, Julie, il y a des musées qui l'ont plus difficile au Québec, en Europe, aux États-Unis. Et il y en a qui essaient de trouver d'autres types de stratégies plutôt que de réduire les coûts pour rentrer dans leur argent. Et c'est le cas du musée du Prado à Madrid. Eux, pour essayer de mieux s'autofinancer, ils ont décidé de rester ouverts tout le temps, 7 jours sur 7. Alors, le musée sera tout le temps ouvert. Ils se disent, mais ça devient moins cher de mettre le musée en activité et d'avoir un maximum d'entrées payantes plutôt que de fermer selon un horaire X, Y ou Z. Alors, ça va se faire progressivement. En fait, d'ici la fin de l'année, il y aura une partie du musée qui sera continuellement ouverte et ce sera l'ensemble du musée à partir du 16 janvier 2012. On verra si ça deviendra une stratégie gagnante ou non.
Parce que c'est quand même des coûts aussi là, oui, d'être ouvert 7 jours sur 7.
Il faut du monde dans les salles. Il faut surveiller tout ça.
Ben oui, faut qu'il roule le musée.
Oui, ben oui. Et sinon, on revient au Canada. Enfin, on part de l'Espagne et on revient au pays. C'est un article du Ottawa Citizen, ce que j'ai trouvé bien intéressant, qui montre un peu les orientations artistiques, gouvernementales ou financières actuellement. En fait, il y a pas de réponse claire dans cet article-là, mais semble-t-il que depuis que les conservateurs sont au pouvoir, donc depuis 2006, les départements fédéraux ont loué à la Banque d'art du Canada beaucoup moins d'œuvres d'art que dans le passé. Donc, les gens disent, ben, regardez, c'est peut-être dû à la crise économique, mais d'autres y voient justement les priorités du gouvernement canadien quant à l'art. Alors, beau débat en perspective autour de ça.
C'est tellement surprenant là, comme nouvelle, considérant la place de la culture chez les conservateurs.
Non, effectivement, mais c'est quand même une baisse importante, là, 2 millions de dollars de moins. Ouais, ça, c'est en 2009-2010. Là, donc, c'est une baisse constante année après année. Donc, c'est peut-être malheureux, ça reste à voir, comme on dit, c'est peut-être la crise, enfin, on essaie de se garder une petite gêne dans les articles.
Avant de trop critiquer.
Mais l'article sera en ligne, en fait, le lien va apparaître dans les prochaines minutes là, sur l'aérospatiale.wordpress.com, vous pourrez aller voir par vous-même. Alors voilà, c'est un peu les éléments que j'ai retenus cette semaine. Peut-être un petit clin d'œil en terminant, Julie, si tu me le permets.
Oui. Vraiment.
Je vous avais parlé il y a plusieurs semaines de ça, d'un gala des arts visuels qui était mis en place au niveau provincial. Eh bien, la prévente des billets est commencée. Le gala va avoir lieu mardi le 13 décembre prochain à Montréal. Ça va être animé par Emmanuel Le Bilodeau et on va mettre également le lien pour l'achat de billets en prévente, si jamais ça vous intéresse, sur le blog de l'émission.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On te garde pour l'émission, mais également, on peut t'entendre les vendredis à 17h30 sur les ondes de CKRL.
La vie en BD.
Alors, on s'en va en pause audio. On écoute A Train to Innsbruck. Toujours en compagnie de Jules Gagné, son rhume, et de Raymond Poirier à la mise en onde. Et on est rejoint par Dominique Savoie. Bonjour Dominique.
Allô.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Tu es allée faire un tour à la galerie Le 36
oui,
en fin de semaine.
En fin de semaine, donc je suis allée voir l'exposition de Marcel Jean qui s'appelle Maison. Donc Marcel Jean qui déjà depuis plusieurs années colore le paysage artistique de la province.
Le mot est bien choisi,
oui,
hein? Colore.
C'est vraiment ça, c'est on pourrait dire presque un coloriste sans vraiment lui donner cette appellation-là. Mais donc à la galerie Le 36, il nous présente l'exposition Maison. Donc quand on entre dans la galerie, c'est une petite galerie.
Oui,
donc,
c'est ça, un 2,5
exactement,
là,
très
de
petit.
Québec.
Donc, sur la rue Couillard, donc, on s'imagine. On voit six toiles en acrylique, donc peintes à l'acrylique, de même dimension échelle humaine. Et
la dimension Marcel Jean, finalement,
oui,
en termes de
hauteur. Oui, par contre, des fois, il a déjà fait des formats beaucoup plus grands. Et à première vue, on a l'impression d'avoir affaire à des œuvres abstraites. Mais finalement, quand on s'approche tranquillement, en les regardant vraiment de plus près, on découvre finalement l'image, l'idée, c'est-à-dire la demeure, la maison. Marcel Jean, donc, dans son communiqué de presse, résumait un peu dans quelques mots, en fait, dévoilait son œuvre avec ces quelques phrases qui étaient « Penser le geste comme construction, un objet qui se construit dans le temps, un espace qui s'objective, paysage esselé dans le champ pictural, maison en peinture ». Déjà là, j'étais séduite.
Oui, mais ce genre a le don de bien synthétiser sa pensée à travers une poésie vraiment...
assez concrète quand même.
Très concrète, mais très simple, très courte. Très, il provoque des images fortes.
Effectivement,
aussi.
Effectivement, tu sais, juste avec ça, déjà, j'avais hâte d'aller voir.
Ben ouais.
Puis une fois rendu, on comprend déjà un peu mieux. Donc, les 6 toiles se voisinent, donc, et représentent donc des sortes de demeures, de maisons, et ont quelque chose en commun. D'abord, un fond plutôt obscur, nocturne, des couleurs sombres, des gris, des noirs, des bruns. Puis, toujours comme Marcel Jean le fait, donc c'est jamais des couleurs en aplat, c'est plutôt des couleurs qui sont un peu vibrantes.
Oui, on sent des fois l'intervention d'autres couleurs.
Exactement, qui donnent beaucoup de profondeur donc à ces fonds-là. Puis, des couleurs, en fait, qui donnent une espèce d'effet de liberté, qui ont tendance aussi à s'expansionner. On a l'impression qu'ils pourraient dépasser le cadre de la toile. Ouais. Puis, finalement, on retrouve au centre de chacune de ces toiles-là une espèce d'enceinte dessinée très nettement par une ligne très graphique qui rappelle un peu le coup de craie sur une ardoise et qui crée donc l'enceinte, la maison en tant que telle. Et puis à l'intérieur de cette maison-là, c'est là que l'action se passe. Les lignes dirigent donc notre regard. Les couleurs vont être beaucoup plus audacieuses, vibrantes, vivantes. On va voir des rouges, des roses, des bleus, des verts. En fait, les couleurs qu'on est accoutumé de voir dans ces toiles, qui contrastent beaucoup avec l'arrière-plan. Donc, ce fond qui est beaucoup plus nocturne, plus sombre. Et vraiment, on a l'impression, en fait, de rentrer dans une maison. En psychanalyse, on dit que la maison est souvent symbole de psyché, de son soi. Mais c'est un peu ça. Chaque maison est différente. Chaque maison va s'exprimer, en fait, d'une façon différente. Donc, chaque pièce représente une partie du soi. Donc, c'est un peu ça qu'on a l'impression de voir qu'on arrive. On est facilement comme... envahi par l'étoile de Marcel Jean. Donc, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai vraiment été complètement, je dirais pas jusqu'à dire en symbiose, mais vraiment séduite par
Parce que surtout, si on s'approche, habituellement, comme c'est d'assez grand format, ben là, on est vraiment complètement, là, c'est tout ce qu'on voit, là, quand on approche vers le détail, on peut reculer également. J'ai pas vu la dernière exposition, mais si je me fie à ce que Marcel Jean a fait dans ses deux dernières, quand même.
Il y a une ligne conductrice, là, avec ses dernières expositions, si ce n'est que, justement, le coup de pinceau, les couleurs, la ligne qui revient souvent dans son travail, qui vient accentuer quelque chose. Ici, la ligne vient vraiment créer une structure.
Ouais,
d'abord une enceinte,
calme,
c'est ça. D'abord une enceinte qui représente la maison, entre guillemets. Puis les divisions à l'intérieur. Donc, c'est des divisions très libres, très graphiques, très géométriques, mais qui va vraiment diriger notre regard et qui va vraiment structurer, en fait, cet espace-là, un peu à la manière justement, là, de n'importe qui, donc, qui veut structurer sa vie ou ses choix dans la vie. Donc, c'est très intéressant sur ce niveau-là. Et le contraste, donc, de cette maison et de ce fond un peu plus libre, un peu plus sombre, obscur, donc, accentue aussi l'effet d'intériorité par rapport à cette maison-là, de côté privé de son chez-soi, donc, qu'on protège. Donc, chacun est un peu le gardien de sa maison, de sa demeure. Donc, c'est très intéressant sur ce côté-là, sur cet aspect-là.
Oui, puis j'imagine aussi que ça doit amener à se questionner sur sa propre maison.
Exactement. C'est effectivement ce qui arrive, donc, d'où l'idée tantôt, le lien avec la psychanalyse. Donc, ça crée beaucoup de réflexions. Puis, comme je disais, il y a quelque chose de fascinant avec l'étoile de Marcel Jean, c'est qu'on se laisse réellement emporter. On s'abandonne à regarder ça. Puis il y a vraiment moyen de partir là, dans sa tête un certain temps là, en regardant ça. Puis il y a une autre chose aussi qui est intéressante avec cette galerie-là, c'est jamais bondé de gens.
Donc, ben non, on est seul souvent devant des œuvres.
Souvent, donc on a vraiment le temps de regarder l'étoile. Et parce que c'est petit aussi, on se sent habité par ces toiles-là. Puis là, vraiment...
Ben parce qu'on peut pas prendre un grand recul.
Non, c'est ça. Puis ben l'effet justement de la salle qui est petite avec les toiles qui sont quand même de dimension assez grande, mais tout de même à l'échelle là, à une dimension assez humaine, ça donne donc vraiment un effet là, très très intéressant comme d'habitude hein, finalement.
Ben, moi ce que je trouve fascinant en fait chez Marcel Jean, c'est à quel point il y a un équilibre. Tu dis on peut se laisser absorber dans l'étoile de Marcel Jean, c'est prenant, on se questionne par rapport à nous-mêmes, puis en même temps c'est une démarche qui est quand même très très réfléchi. On sait qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est contrôlé. C'est assez intellectuel en même temps, puis ça peut stimuler.
C'est comme juste correct pour tous les niveaux. Puis ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il est quand même assez productif, là, Marcel.
Ben oui, il expose au moins une fois par année.
Ben effectivement. Puis sans compter qu'il enseigne, puis donc il est très actif dans le milieu à Québec des arts visuels. Donc moi, ça m'impressionne à chaque fois de réussir, en fait. Là,
quelque chose d'autant de qualité.
Oui, exactement. Puis à chaque fois, l'effet est là, donc c'est réussi. Donc, je
la recommande.
Je la recommande fortement. C'est à la Galerie le 36 jusqu'au 13 novembre. Donc, il nous reste encore un petit 2 semaines.
Excellent. D'ailleurs, peut-être juste pour dire les heures d'ouverture, parce qu'on est habitué que les heures d'ouverture d'une galerie, c'est du mercredi au dimanche, le midi à 17h à la Galerie le 36. C'est de 14h à 17h le vendredi, samedi et dimanche, donc c'est limité, il faut quand même être au courant de tout cela.
Puis, une autre chose que les gens ne sont pas habitués, on a vraiment l'impression de rentrer dans un bloc appartement là, quand on rentre.
Oui, c'est vrai.
N'ayez pas peur, c'est la bonne place. Vous rentrez, vous ouvrez la porte, on est bien rendu. C'est vraiment le 36 rue Couillard.
Avec un nom, ma foi, fort simple. Dominique Savoie, merci beaucoup.
Merci à toi, Julie.
On s'en va en pause audio, on écoute The Long Red Fires of the Dying Day sur les ondes de CKRL. Bien entendre un extrait de la pièce The Long Red Fires of the Dying Day qui est tirée de l'album Blue Lands du groupe Dopo. Une suggestion de Simon Roy qui était malheureusement pas disponible aujourd'hui pour en discuter avec nous. Par contre, si vous appréciez les suggestions de Simon, je vous recommande fortement d'écouter Web Musique. C'est diffusé les dimanches soirs, je crois, à compter de 20h ici sur les ondes de CKRL. Avant d'aller en pause, je fais mon petit calendrier, mes petites suggestions de la semaine. Notamment, vendredi prochain, dès 19h, il y a le vernissage de l'exposition de Cindy Dumais qui est présentée au lieu. Donc, on vous attend en grand nombre. Également, quelques expositions que j'ai envie de mettre de l'avant. L'exposition de Florence Leblanc, Dissidence mobilière, qui a lieu à l'établi. Une exposition qui semble assez intéressante, où elle a vraiment travaillé in situ à l'établi, ce qui est quand même assez rare. Également, si on reste dans le domaine de la photographie, une nouvelle exposition qui s'appelle Cause à images, qui est présentée à la Galerie du Cercle. Donc, une exposition qui met de l'avant le photoreportage et les groupes Stigmate, Panos Pictures, pardon, et Zmala, donc des groupes qui se consacrent principalement à, au photoreportage. Également à Engram, le collectif Edinburgh Printmakers qui nous présente Prince of Darkness. Et à la Galerie Michel Guimont, si vous avez manqué l'exposition de Jacques Payette au Musée national des beaux-arts ce printemps et cet été, ben, vous avez l'occasion de vous reprendre à la Galerie Michel Guimont. Ça a lieu jusqu'au 13 novembre. Également, on a parlé de Steichen, le glamour, mode et célébrité des années Condé Nast, qui est présenté au Musée national des beaux-arts. Il y a aussi une nouvelle émission qui s'appelle Cabinet d'images, l'œuvre d'art, qui vient tout juste de commencer. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Charles F. Ouellet autour de Avenue citoyenne.
Le vendredi 4 novembre, le Cercle fête ses 4 ans. Pour souligner le carrefour artistique et agroalimentaire qui grandit en Saint-Roch, le Cercle vous invite à son anniversaire sous la forme d'un grand marché festif. Venez voir et entendre Bernard Adamus, Magotti Bratz, Jewish Daily Night, Cabina Obscura, This Is Not Design, Morgan Bridge et Stigmate Photo. Venez déguster la cuisine du Cercle, la boîte à pain, la poissonnerie de Jeff, le clocher penché, la coop des grands rangs, l'artisan charcutier, la face cachée de la pomme, Appleton Reserve et Lupin Cupcake. Le vendredi 4 novembre de 18h à 3h du matin. Le happening, c'est la fête du Cercle. Information 88 988 76 84.
Le tradeunioncercle.ca.
Le 5 novembre de 11h à 13h, ne manquez pas l'émission spéciale du Grain de Sable dans le cadre du Salon de l'économie sociale. Découvrez ce que vous offrent les entreprises d'économie sociale d'ici avec Valérie Blouin et ses collaborateurs en direct de Place Fleur-de-Lys. Une collaboration du Pôle régional d'économie sociale de la Conférence régionale des élus et de la CEDEC de Québec.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Chaumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Try it now.
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1.
This is Tic-Tac-Toe.
Electronics. 18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale en cette édition du 1er novembre 2011. Et pour entamer cette dernière demi-heure, on reçoit Charles F. Ouellet, un photographe de Québec qui a participé à Avenue citoyenne. Bonjour Charles.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, t'as fait une boîte, t'as décoré une boîte électrique avec les jeunes de l'Exode, la maison des jeunes de Limoilou, pour le projet Avenue citoyenne. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là?
Le projet Avenue citoyenne, à la base, en fait, je dirais que c'est peut-être une branche du projet artistique Avenue, qui est un projet qui est initié par Ex Muro, qui est en fait un organisme à but non lucratif de Québec, qui est dirigé par Vincent Roy. Et donc, on a peut-être vu aussi dans Saint-Roch les boîtes là qui sont apparues, les recouvrements de boîtes électriques qui sont apparues au travers du quartier.
Une œuvre de Thierry Cabossé.
Voilà, plusieurs artistes de Québec, en fait, qui ont participé à ce projet-là. Et en marge de ce projet-là, il y a eu Avenue citoyenne, où là, j'ai été approché parce que, bon, j'avais appliqué dans le processus d'artistique Avenue, tout ça. Et les choses arrivent comme ça, il faut qu'on n'est pas qualifié. Et donc, Vincent m'est revenu avec l'idée de Avenue citoyenne. Et il m'a proposé, en fait, l'idée d'être jumelé avec un organisme de Québec pour créer un recouvrement de boîtes électriques. Et donc, celui que j'ai réussi à créer avec les jeunes de l'Exode, en fait, se trouve ici, juste sur le côté de CKRL.
Exactement. Et le projet, en fait, donc c'est quand même une manière d'intégrer les citoyens à une manière que les citoyens s'approprient leur ville autrement que juste vivre dedans. Là.
Tout à fait. L'idée à la base d'Avenue citoyenne, c'est de prendre un artiste, le jumeler avec un organisme, et de demander à l'artiste d'initier un groupe de personnes à sa pratique photographique. Au travers de ce projet-là, il y a trois artistes qui étaient jumelés avec des organismes. Il y avait Georgia Volpe, qui était, elle, attachée aux ateliers de la mezzanine.
Oui.
Ensuite, Eve Cadieux, qui était rattachée au pignon bleu. Voilà, et moi, donc, on me jumelait ici avec l'Exode. Et comme moi j'ai une approche, je pratique principalement le reportage et le documentaire, c'était de les initier à cette pratique-là. Et puis les amener un petit peu dans mon monde, leur expliquer la manière dont on peut compter des images en photographie, dont on peut traduire en fait les lieux qui nous entourent, les gens qui nous entourent. Alors je les ai amenés un peu dans mon monde, dans ma manière de procéder.
Puis comment ça s'est fait? Tu les rencontres à plusieurs reprises, tu présentes ton travail, le processus, comment ça fonctionne?
Oui, tout à fait. Il a fallu quand même diviser ça, là, tu sais, faire une plage horaire là, bien définie. Parce que bon, dans mon cas particulier, moi je travaille beaucoup en argentique. Alors il a fallu que je les initie au principe de la photographie à la base. Oui, il faut les parrainer quand même, c'est pas évident non plus. Alors ils ont opéré, tu sais, des appareils grand format, principalement des appareils argentiques, quelques appareils numériques et tout ça. Et une fois que je les ai sentis en confiance, j'ai senti qu'il y avait aussi un dynamisme qui s'était créé au travers de tout ça, une interaction qui s'était créée entre le photographe et aussi la personne photographiée, puisqu'ils étaient comme en groupe. Là, on a pu les laisser travailler tout seuls et puis voir qu'est-ce qui a en résulté. Là.
Donc, le travail, c'est principalement le travail de création de ces jeunes-là.
Tout à fait. Oh, et puis, bon, comme je parlais, j'ai une démarche documentaire. Alors, je m'intéresse beaucoup aux gens autour de moi, aux histoires que je peux raconter qui nous ressemblent. Dans le cas de l'Exode, ce qui est intéressant, c'est de les mettre, eux, en lien avec leur environnement, donc le lieu où ils passent probablement le plus de temps après l'école et la maison, donc qui est cette maison des jeunes qui se trouve à Limoilou.
Puis la boîte électrique, justement, là, elle est vraiment séparée en deux. Hein. Tu dis, on les met en relation. Donc, il y a une partie plus portrait, puis l'autre où ils sont vraiment en interaction. Ça aussi, c'est leur idée
Les images sont venues tout seules. Hein. Alors, on commence au départ avec l'approche documentaire, avec une certaine répétition des cadrages et tout ça. Puis ça les met assez à l'aise, là aussi, avec l'idée de se faire photographier et de photographier les gens.
Ça, c'est rassurant.
Oui, tout à fait. Et puis, ils ont quand même bien compris le principe. Et puis, il y avait toute l'idée après ça de matérialiser le travail aussi avec qu'est-ce que ça donnait quand on travaille avec un matériau comme la photographie argentique, donc des négatifs, des planches contact. C'est toute une étape de la sélection qui devient assez intéressante pour composer après ça le produit fini. Et puis c'est un petit peu ça qu'on voit sur la boîte, c'est un peu l'étape de la sélection.
Ouais.
La, le choix qu'on a fait sur certaines, où on s'est arrêté sur certaines images et puis certains portraits qui sont sortis des prises de vue qui étaient plus intéressants que d'autres. Alors,
Il y a des portraits, mais on les voit aussi en action. Là. Je pense qu'on les voit jouer au billard, on voit quelqu'un jouer d'un instrument de musique. J'imagine que pour eux aussi, c'est important là, de mettre ça de l'avant, là. Pas juste leur personne, mais bien les possibilités.
Oui, voilà, parce que c'est leur quotidien, en fait. C'est eux qui ont ciblé directement ce qu'ils voulaient photographier. C'est ce qui a été un petit peu le défi de mettre ces choses-là sur papier, d'être capable de comprendre ce qu'ils voulaient photographier. Une fois qu'ils ont réussi à s'exprimer, qu'on a réussi à faire des brainstorms, vous excuserez l'anglicisme.
Le mot français n'est pas tellement beau, hein, tempête d'idées. Là.
Bon, voilà. donc, on a essayé de créer un corps d'image qui pouvait faire sens et qui pouvait les ressembler aussi. Et puis, c'est ce qui a donné...
Mais là, d'ailleurs, la boîte électrique est à côté de CKRL sur la 4e rue, au coin de la 3e avenue. C'est un endroit quand même assez passant. Comment ils ont réagi quand ils se sont vus, là, vraiment représentés dans leur propre quartier, aux yeux de tous?
Cette question-là, on l'a lancée directement au début du projet, parce que moi, je savais en fait que c'est eux, en fait, qu'ils allaient se photographier entre eux. Ils n'étaient pas nécessairement au courant. Et donc, je les ai demandé s'ils étaient à l'aise avec ça, avec leur personne. Et puis, bon, pour des jeunes, c'est de 12 à 14 ans, c'est un bon défi quand même. C'est peut-être pas la période dans notre vie où on est plus à l'aise avec notre environnement et avec nous-mêmes. Mais ça s'est bien passé quand même. Les intervenantes ont été très présentes aussi et puis ils sont prêtés au jeu. Et bon, comme je suis aussi même à un certain point à l'intérieur des images, je pense qu'une fois qu'on a mis tout le monde ensemble, qu'on a montré que nous, on était à l'aise, on monte un petit peu le chemin, et puis eux nous suivent là-dedans, et puis ils se sentent en confiance, et puis ça va bien. Puis c'est aussi de les sécuriser ou de les rassurer, parce qu'ils ont souvent peur, en fait, que des gens interviennent directement sur la boîte, qu'il y ait du vandalisme qui se crée et tout ça. Mais je crois que les gens sont contents de voir apparaître ces objets-là dans les rues, en fait, ces petites créations-là qui bordent les rues de Québec.
Oui, on n'a pas envie, en fait, de faire quoi que ce soit. Moi, je fais pas de graffiti, mais j'imagine que les gens aussi se disent une œuvre d'art, on va pas aller piller ça. Ouais. Mais...
Et les gens de la scène du graffiti sont sensibles à ça, en fait. Ils sont sensibles à l'esthétique, à l'art en général. Alors, voyant que ces boîtes-là sont recouvertes, ça devient plus non plus un terrain privilégié pour travailler dessus.
Oui, c'est ça. En même temps, pour la ville, c'est quand même intéressant aussi, son élargie. Mais toi, Charles, bon, tu disais, tu es dans une approche quand même documentaire, une approche, bon, photo-reportage, un côté social. Ça a dû être vraiment enrichissant, là, d'être en contact avec ces jeunes-là.
Ben, c'est tout un défi. C'est enrichissant d'un côté que j'avais un peu sous-estimé, puisque je suis habitué de travailler seul, de me pencher sur mes idées moi-même, de faire ma recherche, donc je suis jamais en lien vraiment avec les gens directement à part avec mes sujets, mais je me retrouve tout seul là-dedans. Et dans ce cas-là, ça m'a permis de me rendre compte que c'est un autre monde d'essayer de faire comprendre ce qu'on fait. J'essaie souvent de l'expliquer à des sujets quand je les photographie, mais là, de montrer aux gens pourquoi on doit photographier ces gens-là ou qu'est-ce qui est intéressant, c'est un bon défi de tous les jours.
Ouais. Ça demande de la pédagogie un peu.
Tout à fait, mais non, c'est une belle expérience.
C'est quelque chose que tu aurais envie de reproduire, de retravailler comme ça avec des gens ou d'intégrer plus tes sujets
De partager ses connaissances, c'est toujours plaisant. En fait, c'est toujours flatteur d'un côté de quand on vient, quand on vous approche, puis on vous demande si vous êtes prêt à participer à un projet comme ça, pour partager vos connaissances, votre manière de regarder le monde, parce que c'est un petit peu ça l'idée à la base du projet. Alors, oui, tout à fait.
Et crois-tu que ça a allumé quelques petites lanternes chez les jeunes?
Je l'espère. Du moins, ça les a intéressés. Le processus photographique, comme moi je le pratique, est peut-être un petit peu désuet, où ça en vient, ils se perdent tranquillement.
Complexe mais, pour eux aussi.
Oui, tout à fait. Mais pour la plupart d'entre eux, j'ai été très, très surpris de savoir qu'ils comprenaient très bien l'action de la lumière, comment tout ça fonctionnait, la capture de la lumière, la photographie. Alors, ils étaient très, très éveillés, ces jeunes-là.
Il y avait quel âge environ? Hein? C'est parce qu'on sait qu'entre 12 et 17, mais...
Ouais, je pense que pour les 4 jeunes qui m'ont accompagné là-dedans, on parlait vraiment de 12 à 14 ans.
OK, donc quand même des jeunes adolescents.
Tout à fait, oui.
Bon, toi, tu as fait une boîte électrique. Il y a également FKD qui a travaillé avec l'Opinion Bleue, comme on disait tout à l'heure. Peux-tu nous en parler un peu?
Dans la même idée, en fait, Eve présentait son approche en photographie. Et puis, ben, je crois que c'était sous forme de cabinet, en fait, ce qu'elle avait un peu proposé aussi avec Artistique Avenue, en partageant l'idée de rentrer dans son monde à elle, que les jeunes se retournent vers leurs souvenirs, vers le passé, qu'est-ce qui se retournent sur ce qui les anime. Et donc, pour recréer justement ces petits cabinets-là qui devenaient des facettes de recouvrement de la boîte électrique, alors chacun et chacune des jeunes qui étaient impliqués là-dedans ont pu justement composer leur propre petite boîte avec ce qui leur tenait le plus à cœur.
Oui, parce qu'il y avait tous des objets qui devenaient vraiment mis en valeur dans leur quartier également. C'est au coin de, on va le préciser, là, c'est au coin de la rue Saint-Vallier-Ouest et de la rue Carillon. Ouais. Également, Georgiev Volpe qui a travaillé avec l'atelier de la mezzanine de leur côté, ont choisi plus le collage avec des papillons qui sortent de barreaux.
Oui, je crois que avec Georgia, en fait, est partie de plusieurs travaux collectifs où les gens des ateliers de la mezzanine, en fait, avaient travaillé de manière collective pour créer des espèces de composés, de gros collages, de grosses toiles. Et puis, je crois que son œuvre est composée à partir de 3 ou 4 toiles différentes. Donc, une qui comprend directement les papillons, l'autre qui se consiste à être un grillage, et puis des photographies aussi qui sont mises en abîme et tout ça. Ça donne un bel effet de perspective et de profondeur aussi.
Puis un côté poétique également, là, quand on regarde les papillons qui passent au travers des barreaux, c'est toujours intéressant. Charles, c'est ta deuxième collaboration avec Ex Muro. Tu avais présenté Nouveau Hill sur la cour de la Pente Douce.
Oui, en juin dernier, en fait, on avait inauguré le projet Nouveau Hill. C'est un très beau projet. C'était mon premier projet avec Ex Muro. Et puis, on a été très contents du résultat. C'est un beau projet qui était un projet d'envergure tout de même, là, puisque ça s'étalait sur quelques centaines de mètres.
Enfin, surtout le gros mur de béton absolument horrible.
C'est un projet qui est parti un peu rapidement, malheureusement, en fait. Il est resté de manière très éphémère.
Il était censé rester, je crois, jusqu'à la fin octobre,
oui,
ce projet-là.
Oui, tout à fait. Et puis, manque de communication, il y a eu un petit problème technique. Et puis, malheureusement, l'œuvre a disparu. Cependant, on serait de retour l'année prochaine. Oh. On travaille fort là-dessus, puisque bon, on a une visibilité qui a été coupée. Alors, on va essayer de rattraper ça pour l'année prochaine.
Donc, de réutiliser, ça donne l'occasion d'avoir une autre vitrine.
Ce serait d'ailleurs très, très intéressant de retourner sur ce mur-là et puis de réexplorer, en fait.
Oui, de réinterpréter le même mur autrement. Parallèlement, tes photographes, tu fais tes projets de ton côté. Qu'est-ce qui se passe, justement, d'accepter les collaborations avec Ex Muro?
En fait, c'était la première fois que je sortais du cadre, vraiment, que je sortais mes personnages du cadre photographique. Pour le moment, je reste beaucoup dans le cadre de l'image, même dans la sphère publication, si on peut dire. En ce moment, il y a l'ouvrage Zmala, en fait, dont on peut voir des extraits qui sont présentés au Cercle, là, vous avez mentionné précédemment. Donc, il y a un extrait, en fait, d'un reportage que j'ai réalisé sur les pêcheurs canadiens, en fait, qui est présenté là, qui est d'ailleurs disponible à l'intérieur de l'ouvrage.
Tu travailles avec Zmala aussi?
En fait, Zmala se trouve à être une revue annuelle.
Okay.
Qui est lancée, qui est une revue qui donnait la tribune au collectif, en fait. C'est une revue française qui est née vraiment de la coopération de plusieurs collectifs et de gens du monde de l'image qui sont présentement à Québec, qui se dirigent en ce moment au Festival à Saguenay de photojournalisme. Et puis ce projet-là est né vraiment pour donner un aspect plus annuel, mais un aspect aussi de publication annuelle qui pourrait montrer un petit peu qu'est-ce que produisent les collectifs aujourd'hui en photographie, parce qu'on sait vraiment que les collectifs, ce sont des laboratoires, en fait, de la photographie, si je peux le traduire ainsi,
ouais.
Parce que souvent, bon, dans le reportage, dans le documentaire, souvent, les agences sont dictées par la ligne éditoriale des médias de masse. Alors, on n'a pas le choix de s'intéresser à certains sujets. Dans le cas des collectifs, souvent, les travaux sont mandatés sans fonds directement. Alors,
c'est travaux à long cours. C'est des initiatives d'artistes.
Ouais. Alors, sont des travaux plus marginaux, si on pourrait dire, aussi avec des sujets qui sont plus méconnus, souvent. Alors, ça peut être... c'est un ouvrage très intéressant. Ça fait 3 ans, nous, qu'on est avec Zmala, qu'on les accompagne dans cette aventure-là. 2 ans qu'on a des projets publiés à l'intérieur de ça, et puis on souhaite que ça dure encore longtemps.
Mais ça tombe bien, parce que la semaine prochaine, on reçoit Renaud Philippe pour discuter de causes à image. Donc, tu mets la table pour le sujet. En attendant, bien, on peut toujours aller au jardin. En attendant, on peut aller voir les deux expositions en même temps, mais on peut aller au jardin Saint-Roch ou encore au coin de la rue Dorchester et Saint-Vallier-Est. Ici, au coin de la 3e avenue et de la 4e rue pour observer la proposition des jeunes de l'Exode et également au coin Saint-Vallier-Ouest et Carillon pour Artistique Avenue. Hey, je l'ai dit en début d'émission, je suis accompagnée du virus du rhum, donc des fois du rhum. Je suis en train de passer pour une alcoolique. Quelle confusion! Donc, je suis accompagnée du virus du rhume. Donc, c'était pour Avenue Citoyenne. Voilà. Elle s'est présentée jusqu'à quand environ? Est-ce qu'il y a une date de fin?
Je crois que c'est indéfiniment, jusqu'à temps que le matériau commence à se désagréger, mais là, ça sera remplacé par défaut.
OK. Bon, on souhaite que ça dure longtemps. Charles F. Ouellette, merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
On s'en va en pause audio. On écoute Sea Lion of the Sea sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait de... On vient d'entendre la pièce au complet, en fait. Sea Lion of the Sea, qui est tirée de l'album Blue Lands de Dopo, une suggestion de Simon Roy que vous pourrez retrouver sur le site Internet de l'aérospatiale.wordpress.com avec les liens également pour la revue de presse de Raymond Poirier. Vous pouvez écouter l'émission en balado-diffusion. Les communiqués de presse également sont publiés sur le site web.
Et les liens sont déjà en ligne, donc vous pouvez y aller maintenant pour lire les articles. Et oui, Julie, je me suis immiscée à nouveau dans ton émission.
Ah, immiscée,
c'est ça que, quand tu me fais faire la mise en onde, c'est ça qui arrive.
Raymond a été animateur ici à CKRL pendant 5 ans. Il est très à l'aise avec le micro et on aime ça sans problème. D'ailleurs, c'est rapidement en ligne. Merci à toi, Raymond.
Pas de problème.
On était censé discuter avec Peyo Elisséry. Malheureusement, il y a eu un petit problème et Peyo n'est pas avec nous. Par contre, je suis en mesure de parler de son exposition, une exposition qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Ça s'appelle Le Monument. L'exposition rassemble, je crois, une dizaine d'œuvres environ de la production récente de Peyo Elisséry qui avait exposé au printemps dernier à la Galerie Le 36. On l'avait reçu en entrevue pour Vacances où il opposait donc des images un peu, des images en train de disparaître. Ça présentait un peu sa nouvelle manière. D'ailleurs, j'invite Raymond, tu l'as vu aussi, là. On est allés ensemble, disons-le. Je t'invite des fois à venir voir des expositions.
Exactement. Et Vacances, en fait, qu'on avait trouvé, que j'avais trouvé bien intéressante, où on avait l'impression qu'on était pratiquement en vacances à Tchernobyl avec des couleurs, des gris délavés. En fait, beaucoup de gris délavés appuyés par la palette de couleurs qui est un peu... disons, intimement lié avec un peu tout ce que Peyo Elisséry fait. Donc, c'est cette palette...
Vous appelez ça des pastilles des carrés de couleurs. En fait, Peyo Elisséry a toujours intégré comme ça les couleurs dans des formes géométriques, soit le cercle ou encore le carré, dans son travail, la couleur qui est toujours un peu dégagée du sujet principal qui, lui, en fait, est habituellement dans des tons de gris assez pâles. Ce qu'il nous présente à la Galerie des arts visuels, c'est vraiment une exposition qui a été créée pour l'espace de la galerie. Donc, la disposition, l'agencement de chacune des œuvres dans l'espace de la galerie est vraiment réfléchi pour que le tout ait un effet d'ensemble quand même très cohérent.
Et déjà, en fait, c'est dès l'entrée dans la galerie, il y a un tapis qui est au sol, un tapis tout en noir, en blanc, et qui, en fait, à mon bon sens vient un peu donner aussi un point de vue ou un point d'ancrage autour duquel toutes les œuvres peuvent un peu se placer. C'est le centre de l'espace de la Galerie des arts visuels. Et il y a un ordre aussi qui est suggéré pour voir les œuvres, pour suivre une certaine progression. Donc,
Effectivement, en fait, le tapis, je veux mentionner que c'est un tapis qui a été fait en collaboration avec Mylène Michaud, donc une artisane textile. Un grand tapis noir en Catalogne avec les fils blancs. Mais ce qui est intéressant, en fait, oui, il y a une progression, mais j'ai envie d'aller dans la direction du tapis, justement, parce que dans les sujets de ses œuvres à Peyo, il y a notamment un pilier avec un chapiteau qui rappelle l'architecture classique grecque ou encore l'architecture romaine. Dans un autre tableau à l'intérieur de la petite salle, la nouvelle salle de lecture de la Galerie des arts visuels, il y a également un tableau qui présente un bâtiment gréco-romain. Il y a un totem à un autre endroit, le monument, l'œuvre qui s'appelle le monument, qui présente vraiment un bâtiment de plusieurs étages. Puis on sent que Peyo Illicéri réfléchit à l'art, réfléchit aux différentes formes d'expression de l'art, que ce soit l'art plus amérindien, l'art classique ou encore l'artisanat. J'ai l'impression qu'il cherche à mettre ça de l'avant ou qu'il s'en inspire également. Il y a deux œuvres, c'est Réel négatif et Réel positif, qui sont des œuvres vraiment minimalistes. Donc, une qui est carré blanc sur fond blanc, l'autre qui est carré noir en diagonale sur un fond blanc. Donc, ça rappelle quand même Casimir Malevitch. C'est certain qu'on peut pas passer à côté de cette référence-là.
Et ce qui renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a une progression, il y a un ordre logique dans sa proposition. Et donc, ce qui fait que oui, on peut prendre chaque œuvre en soi, l'observer, l'apprécier, la réfléchir, mais il y a beaucoup plus de richesse, justement, à réfléchir chaque œuvre en tant que telle, mais chaque œuvre en relation avec les autres, parce que, justement, il y a ce placement, cette progression-là qui est proposée.
Oui, une progression, en fait, on peut l'avoir au niveau des sujets, mais on peut également l'avoir au niveau de la couleur, parce que on sent que la couleur, lentement, est en train d'être évacuée du travail de Peyo Illicéri. Le gris, bon, qui était déjà présent dans son travail antérieur, un gris qui est en train de s'effacer, mais également ce que j'appelle les pastilles de couleurs qu'on voyait dans son travail commencent à céder de plus en plus la place à des pastilles de noir et de blanc qui sont quand même très pures, qui viennent contraster avec le gris en train de s'effacer, justement. Et il y a comme une progression, donc moins de couleurs à plus de couleurs, à moins de couleurs également. Donc, on sent vraiment qu'il y a une courbe, qu'il y a une préoccupation de ce côté-là. Puis, également, en fait, c'est ces couleurs-là, c'est ces pastilles. Je suis encore avec les pastilles de couleurs, même si c'est en noir et blanc. Mais reste quand même qu'on sent que Peyo Illicéri fait de la peinture, mais qu'il nous parle aussi de peinture. Donc, en intégrant le moyen, c'est-à-dire la peinture, en le mettant à part du sujet, en coupant également les côtés de certaines des tableaux qui sont d'ailleurs de quand même assez grand format, en laissant une bande de toile carrément incrue, même pas traitée avec du gesso ou rien, en intégrant aussi par moments des petites taches de couleurs. On sent qu'il discute de peinture, qu'il réfléchit à la peinture, qui sans prendre position nécessairement, mais qui met de l'avant les moyens de la peinture.
Et je pense que c'est un peu incontournable de toute façon, Julie, de parler de ces pastilles-là dans deux des œuvres, justement, des paysages. Ben justement, la pastille, elle est là, elle est au cœur de l'œuvre, en plein centre. Elle est très, très nette, que ce soit une pastille de couleur ou une pastille noire et blanche. Et le paysage qui est derrière, c'est lui qui est flou, c'est lui qui est un peu vraiment au deuxième plan, qui est là, qui est riche, qui est présent, mais qui est un peu, en anglais, le terme sketch me viendrait un peu en tête.
Un peu plus oui, esquissé.
Oui.
En même temps, il y a ce côté d'esquisse-là, mais il y a aussi l'idée de... L'exposition s'appelle Le Monument. Hein, puis on sent que Peyo Illicéri veut quand même mettre de l'avant les choses qu'on peut avoir tendance à oublier ou encore comme une espèce de culture qui tend à disparaître. Puis tout dans sa peinture le met quand même de l'avant, justement, avec cette espèce de gris dont on a l'impression que c'est en train de s'effacer. Mm-hmm. Carrément. Et ça rend le tout quand même assez émouvant, puis ça ajoute peut-être une dimension émotive à un travail qui tend de plus en plus vers le minimalisme.
Bien, l'exemple, en fait, d'une des dernières œuvres où il représente, Julie, une chute. Enfin, on sent la chute, on ne la voit pas, parce qu'il a laissé tout simplement l'espace du cours d'eau vide. C'est blanc et la couleur qui est appliquée, mais il délaisse aussi ses pastilles pour simplement mettre des grands traits, comme s'ils avaient simplement lancé une ligne de couleur, peut-être, sur les côtés de la peinture.
Oui, effectivement, il y a ce côté inachevé-là qui est présent, qui est volontaire, à mon avis, mais également, ce qui est intéressant, c'est que il y a une très grande attention qui est accordée aux détails dans les tableaux. Sur une surface où il n'y a pratiquement rien, c'est la toile qui est crue, un petit trait de pinceau qui vient ponctuer. Donc, on sent qu'il y a l'idée de l'effet d'ensemble, mais il y a également le détail, puis il y a divers degrés d'achèvement qui sont présents dans chaque toile, divers degrés d'achèvement, mais également aussi diverses références à des manières de faire.
Et je trouve que ça montre une belle finesse, en fait, j'ai l'impression. On parlait de réflexion tout à l'heure, et je pense qu'on se doit de revenir à ça, une belle finesse dans la réflexion et dans l'adéquation entre la réflexion et l'action également, parce que la démarche, ou du moins, on a l'impression que cette démarche et ce propos de Peyo Ilissery, il est palpable, il est accessible, il est là, et c'est vraiment le genre d'exposition où on peut justement réfléchir, la discuter, l'approfondir en ayant l'impression justement qu'il y avait cet objectif-là qui était mûrement réfléchi aussi chez le créateur de nous proposer cette réflexion-là. Elle n'est pas là par hasard.
Oui, il nous propose une discussion dans une démarche qui est à la fois, tu le disais, Raymond, c'est assez riche, mais c'est aussi c'est assez accessible, mais c'est aussi d'une grande richesse. Donc, on sent que c'est pas un seul sujet qu'on répète inlassablement, mais que la réflexion, elle est vraiment multiforme. Donc, cette exposition-là, honnêtement, je la recommande aisément. Allez-y, ça vaut la peine, surtout considérant aussi que l'exposition a été faite pour la Galerie des arts visuels. Donc, ces œuvres-là qu'on peut observer n'auront pas le même impact ailleurs. Également, je vous recommande aussi de les regarder de près, mais toujours de vous arrêter à l'effet d'ensemble, parce que c'est quand même assez intéressant. Il y a deux tableaux en hexagone qui viennent entourer un grand tableau rectangulaire, toujours en mettant en perspective avec le tapis. Ça vaut vraiment la peine de prendre du recul et d'observer l'exposition de différents endroits dans la salle. Donc, l'exposition, c'était Peyo Ilissery, ça s'appelle Le Monument. C'est présenté à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval jusqu'au 13 novembre. C'est dans l'édifice de la Fabrique. Et c'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Bientôt, je céderai l'antenne à Gilles Chaumel avec son émission Folk d'Amérique. Mais avant, je souhaite remercier sincèrement Raymond Poirier. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Tu as été vraiment un homme d'orchestre, la mise en onde, la recherche sur l'artiste. Tu fais la critique avec moi, ça fait un plaisir.
Et inversement, merci à toi également, Julie Gagné, et merci aux invités, bien entendu.
Voilà, donc on vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel, et nous, on se revoit la semaine prochaine pour discuter de l'exposition Steichen, et également pour discuter de, l'exposition Cause à image, qui est présentée au Cercle.